Parfois, certains auteurs s'effacent derrière leurs œuvres. C'est le cas de Joseph Pinchon, un nom qui ne vous dit peut-être rien, et pourtant, je suis presque sûre que vous le reconnaîtrez si je vous parle d'une certaine bande dessinée Bécassine. Oui, la petite bonne gaffeuse devenue une figure incontournable du 9e art. Ce que l'on sait moins, c'est que son créateur était originaire de notre région et qu'au-delà de Bécassine, il a mené une carrière riche et méconnue. Aujourd'hui, nous allons revenir sur son parcours et découvrir l'homme derrière le personnage grâce à Rémi Duvert de l'association Art, Histoire et Patrimoine de Clairoy.
Il est né à Amiens. Ses parents ont repris une tannerie à Noyon. Et la famille, c'est-à-dire ses parents, ont acheté une belle maison à Clairoy en 1876, une sorte de résidence secondaire. Ils l'ont revendue en 1920. En fait, ils en sont partis avant la guerre.
Pour contextualiser un peu pour les auditeurs, nous sommes aujourd'hui justement à Clairoy, donc dans son ancienne maison.
Voilà, qui est actuellement la mairie.
On sait de lui qu'il a passé un bac littéraire, puis ensuite qu'il a fait une formation artistique dans un atelier. Qu'est-ce qui l'a amené à créer ce personnage de Bécassine ?
La légende raconte qu'il faisait pas mal de dessins pour des journaux, et en particulier pour la Semaine de Suzette. Alors, la Semaine de Suzette, c'est un hebdomadaire qui était destiné aux jeunes filles de l'époque. Et en 1905, pour le lancement de la Semaine de Suzette, donc, on lui a demandé de faire un dessin en dernière page parce qu'il manquait quelque chose. Et au pied levé, il a dessiné une planche d'une page sur une bonne qui est devenue Bécassine.
Sa vie dans la région a inspiré un peu d'une certaine manière sa façon de dessiner ou pas du tout. À la base, elle est bretonne, Bécassine ?
Non, au départ, elle n'est pas bretonne. C'est après, en 1913, lorsque un scénariste s'est associé à Pinchon pour faire des albums, Bécassine, après qu'ils ont décidé de la faire naître en Bretagne. Pinchon n'a pas que dessiné Bécassine. Il a été en particulier directeur des costumes de l'Opéra de Paris, ce qui n'est pas rien quand même, de 1908 à 1914, en gros. Il a fait des fresques, des tapisseries, des cartes postales, enfin, plein de choses. Donc je crois que c'est un artiste à connaître. Il a aussi dessiné une trentaine d'autres albums, plus des dessins de presse, plus des dessins dans des journaux pour enfants, etc., plus des livres. Donc son œuvre est bien plus importante que Bécassine. Notre association a, depuis 1993, récolté pratiquement toutes les œuvres de Pinchon. Hein. Il existait des livres sur Bécassine, il n'existait aucun ouvrage sur Pinchon lui-même. Donc c'est un ouvrage essentiellement basé sur les images. D'ailleurs, le titre, c'est J.P. Pinchon par l'image. C'est édité par l'association Art, Histoire et Patrimoine de Clairoy. Et sur 132 pages, on voit pratiquement que des illustrations, hein, sur des pages classées, évidemment. Et donc c'est le seul ouvrage qui existe, qui permet d'avoir une idée assez précise, oui quand même, de l'œuvre de Pinchon.
Au total, on sait combien d'histoires ont été créées avec Bécassine et ses autres personnages, ou c'est beaucoup trop vaste ?
Il y a eu une centaine de petites histoires, éditées par la Semaine de Suzette, mais pas en album, et il y a eu 30 albums. Il y a eu Frimousset, par exemple, qui a donné lieu à une dizaine d'albums, je crois. Il y a eu Gringalou, qui a donné lieu à 5-6 albums, et puis d'autres plus ponctuels.
Donc, lorsqu'on parle de Bécassine, c'est vrai que je pense que toute génération connue, on a un peu un visage sur le nom. Par contre, quand on parle de Pinchon, c'est vrai qu'il est un peu plus tombé dans l'oubli. Pourquoi est-ce que justement il s'est fait dépasser par son œuvre ?
Ben, on ne sait pas trop. Il y a, disons, 30 ans, personne ne le connaissait. Notre association a permis de le sortir de l'oubli. Peut-être une autre explication, c'est que ses œuvres ont été dispersées à sa mort, enfin à la mort de sa femme plus exactement, en 1984. Ses œuvres ont été dispersées, on les trouve quasiment plus, enfin, je veux dire les œuvres originales, c'est-à-dire les tableaux, on les trouve quasiment plus, quelquefois chez Drouot par exemple, en vente aux enchères. Et les autres œuvres qui ne sont pas des albums de Bécassine n'ont pas été rééditées depuis très longtemps. Alors que Bécassine, sous l'égide de Hachette Gauthier Langros, continue à être édité, et c'est ça qui est remarquable.
Aujourd'hui enterrée à Amiens, sa tombe est en péril. Laissée en état d'abandon, l'association de sauvegarde du patrimoine sépulcral a lancé un appel aux dons et espère entamer les travaux en 2026 pour pouvoir sauver sa tombe. Le président de l'association, Pierre-Louis Vassel, est avec nous aujourd'hui.
Oui, je suis heureux de participer à cette action de restauration d'une tombe qui est complètement à l'abandon depuis des années. Pourquoi je m'y suis intéressé ? Pas d'abord par Bécassine, paradoxalement, plutôt par le côté généalogique et historique de Noyon. C'est plutôt l'histoire de la mère de Pinchon, qui était noyonnaise, la famille avait une tannerie. J'habite tout près de l'emplacement de cette tannerie. Donc voilà comment je suis venu à Pinchon. C'est un nom qui me parlait, parce que je l'avais rencontré dans d'autres villages de Picardie. Et après, quand j'ai su qu'il avait un lien avec Noyon, avec Amiens, avec Bécassine et le Compiénois, j'ai poursuivi.
Pourquoi justement est-ce qu'il y a, elle est laissée à l'abandon de cette manière ? Il n'avait pas de descendance derrière ?
Oui, curieusement, il avait beaucoup de frères et sœurs, mais peu ou pas de descendants. Certains sont morts à la guerre 14, d'autres en bas âge, d'autres mariés sans enfants, d'autres célibataires. Donc c'est une destinée un peu particulière. Alors il y a d'autres cousins très lointains qu'on a retrouvés, quelques-uns qui nous ont donné l'accord de travailler sur cette tombe, mais il faut remonter à 1750. Personne ne pouvait vraiment intervenir parce que c'était considéré en quelque sorte comme une propriété privée. Des membres de la famille pouvaient s'y opposer alors que personne n'a bougé depuis des dizaines d'années. Donc là, elle était limite dangereuse.
Avant votre association, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont intéressées à cette restauration ?
Oui, bien sûr. Monsieur Duvert, en particulier, qui a découvert l'emplacement, puisqu'il n'y a plus de nom sur la tombe. Donc, moi, j'aurais eu moi-même du mal. Je ne sais même pas si les gardiens connaissaient l'emplacement. Ils avaient une fiche, quand même, qu'ils nous ont transmise, avec la vingtaine de défunts qui est dedans, avec des dates précises. La date d'achat en 1878... On sait le couple qui a acheté, et donc Pinchon est là au milieu de ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents et cousins, une vingtaine je disais.
Monsieur Duvert, en 2020, vous aviez déjà normalement parlé à la mairie d'Amiens. 5 ans après, est-ce qu'il y a eu du changement par rapport à ça ?
La mairie d'Amiens, à mon sens, s'est pas beaucoup intéressée à Pinchon, sans doute parce que Jules Verne a pris le dessus depuis très longtemps.
Du coup, en 2025, là, pour l'instant, qu'en est-il ?
On atteint un budget quand même un peu lourd, hein, plus de 25 000 euros. J'étais le premier moi-même surpris. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait appel à des entreprises reconnues par les monuments historiques. Donc ça rassure un petit peu parce que toucher à de la pierre de taille, il y a des sculptures à recréer, de la ferronnerie. Donc je ne voulais pas faire n'importe quoi. On veut remplacer l'identique. Donc voilà.
Le devis est estimé à 25 000 euros. Aujourd'hui, est-ce que vous avez eu des dons ?
Oui. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on a lancé la collecte. Donc, on avait eu quelques dons d'entreprises et d'associations au préalable, hein, depuis l'été à peu près. Et là, dans ce premier mois, il y a une quarantaine de personnes qui se sont mobilisées, une dame de Marseille. Enfin, c'est assez surprenant. Principalement, c'est mon réseau amical qui a beaucoup marché, hein. J'ai diffusé à tous mes amis, donc...
Il vous reste combien du coup à récolter ?
Alors là, on a à peu près 9 500 en caisse. Vous voyez, donc il faut arriver à 25 600. Donc... Bon, on va procéder par tranche puisqu'on n'aura pas les 25 000 d'un coup. Donc dès qu'on atteint 10 500, on lance la maçonnerie, qui est le premier, et les sculptures, là, des vases drapés là, à remettre sur le fronton de la tombe. Donc ça pourrait démarrer, là, si on a 9 600, ça pourrait démarrer là en janvier-février. Son père et sa
mère étonnés n'en revenaient pas. Cette association créée récemment ne souhaite pas se limiter qu'à la tombe de Pinchon. Elle espère pouvoir restaurer d'autres tombes afin de sauver le patrimoine, notamment des tombes de soldats français. Pinchon, le créateur de la bande dessinée Bécassine, un illustrateur de notre région, un reportage d'Axel Corby pour Radiographie.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.